Il y a les étiquettes de, il y a les indigénistes, et puis il y a les complotistes, et il y a la France périphérique, et il y a les bobos parisiens, et il y a la France des racailles des banlieues, etc. Tout ça, c'est des étiquettes, tout ça, c'est caricatural. Nos vies sont, en matière d'information, et pas seulement, dirigées par des boîtes privées dont les algorithmes qui gèrent le fonctionnement sont totalement secrets et inaccessibles à nous. C'est un vrai problème, là on est d'accord. Et si on considère dans le pouvoir central en France, que la voiture est une nuisance et que c'est une vache à lait fiscale, et que si tu pressures des gens qui ne peuvent pas s'en passer, au bout d'un moment, tu vas avoir des problèmes sociaux et politiques et ces gens-là vont se révolter.
Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleecho.com/podcast. Allez, c'est parti. Éric Lesser, bonjour.
Bonjour.
J'ai le plaisir de vous, enfin, de t'accueillir dans ce podcast. C'est le premier épisode, alors on cherche un peu nos marques, mais
Donc
c'est
je vais essuyer les plâtres, en gros, si on résume.
exactement. C'est pour ça qu'on a pris quelqu'un de bonne constitution, d'aimable, de gentil, journaliste de formation, et puis arrivé au Monde en 1992,
Oui, c'est ça.
et pour 20 ans au Monde, à peu près.
Une petite vingtaine d'années, absolument.
C'est ça. Correspondant aux États-Unis entre 2000, 2002 et 2007, donc avec deux, trois
2001,
événements,
2001, 2001.
2001 et 2007, avec quelques
J'étais là pendant
événements
le 11
sympathiques.
septembre, absolument.
Voilà, c'est ça, des événements importants qui ont marqué l'histoire. Et puis ensuite, tu as aussi lancé Slate en France, une nouvelle forme de magazine pour l'époque, on en reparlera. Et enfin, la dernière grande aventure, c'est Transition et énergie, une revue donc qui...
Et un site, c'est un média à la fois numérique et à la fois papier.
Qui traite de sujets importants et très actuels de la transition énergétique sous toutes ses formes. Donc,
Et
on
on
va
en
beaucoup.
reparlera peut-être aussi un jour,
Ouais.
et je vais lancer d'autres choses, mais j'en dirai pas plus, mais d'autres médias numériques qui s'adressent à l'Afrique francophone et qui s'adressent à la France proprement dite, mais
Ah,
voilà.
si on n'en parle pas, on
Donc
n'en
il y a
parle
d'autres choses
pas.
qui arriveront.
On avait dit on n'en parle pas, on n'en parle pas. Non? Si on en parle?
On peut simplement dire qu'il y a d'autres choses qui arriveront. Voilà. Mais.
Donc moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans ton profil déjà, c'est que fondamentalement, mon impression, du moins, peut-être que je me trompe, mais c'est une honnêteté et une authenticité. Et comme tu as été aussi journaliste dans les médias qu'on appelle aujourd'hui mainstream, eh ben, je me dis il y a quelque chose à voir et à bien comprendre parce que, en fait, qu'est-ce que c'est être journaliste au Monde entre 92 et 2001?
Et oui, et même un peu plus que ça, puisque donc je suis rentré en 92 et j'y suis resté jusqu'en 2007, même, un peu plus.
Après,
Oui,
mais en tant
non,
que
même 2008, quand je
directeur.
suis resté jusqu'en 2008, puisque j'ai fondé Slate, on a fondé la société et on a lancé le média Slate France à la fin de l'année 2008 et début de l'année 2009. Qu'est-ce que c'est d'être dans ce journal à ce moment-là? J'ai vécu la fin de ce qui était, à mon sens, on va dire, on va dire la domination des médias classiques sur l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu connais ça mieux que moi, le paysage a totalement changé et tu as finalement accès, via le numérique, à une multitude de sources d'informations sous des formats totalement différents. Il y a de nouveaux formats, on va dire presque toutes les semaines, tous les mois, et de nouveaux médias qui se créent en permanence. Ça veut dire que, on va dire, l'exclusivité qu'avait les médias traditionnels, qu'ils soient papier ou les médias télévisuels ou les médias radio, à ce moment-là, a disparu, a été battu en brèche. Et il y a eu, les choses se sont passées au milieu des années 90, avec l'Internet, et après se sont accélérées, avec la diffusion large de l'Internet, on va dire, au milieu des années 90. Et ça s'est accéléré, on va dire, le déclin de cette primauté des médias classiques s'est accéléré au début des années 2000. Et donc j'ai vécu la fin de cet âge-là, et donc c'est assez facile, c'est vrai, de mesurer ce qui était avant et ce qui était ensuite. Ce qui était avant, bah c'est, on va dire, comment on peut dire ça? Une pyramide inversée. C'est-à-dire que tu avais un petit nombre de médias et un petit nombre de journalistes qui diffusaient ce qu'ils estimaient être, plus ou moins honnêtement, moi je pense en général plutôt honnêtement, mais on en parlera, même si c'était parfois contestable. Ce qui était l'information importante. Il l'interprétait, il l'expliquait, il la vivait, il la retransmettait. Et après, tu avais, on va dire, une grande masse de la population qui utilisait cette information, qui la comprenait, qui la suivait plus ou moins en fonction de ses intérêts, en fonction d'un certain nombre de choses. La raison pour laquelle le monde était intéressant, pour moi, c'est que c'était dans une certaine mesure, ça l'est plus aujourd'hui, je crois, une espèce de bâton de maréchal. C'est-à-dire que c'était d'une façon ou d'une autre, le quotidien avec le Figaro, mais sans doute un peu plus à l'époque, qui était le quotidien le plus influent, on va dire ça comme ça, ou qui avait le plus de poids politique, voire même un peu économique, mais surtout politique dans le pays. Donc, pour moi, qui étais un journaliste qui suis arrivé au Monde quand j'avais une trentaine d'années, qui avait travaillé dans plusieurs autres médias, un peu à la radio, des choses comme ça, Europe 1, j'avais fait, voilà, j'avais été à la Tribune, des choses comme ça. Mais arrivé au Monde, on va dire, c'était en tant que tel déjà une espèce de bâton de maréchal, parce que ça te donnait la possibilité d'avoir ce que recherchent les journalistes, c'est-à-dire d'avoir un peu d'influence, exactement, on va dire, d'avoir un impact quand on écrit en l'occurrence quelque chose, savoir qu'on est lu et de savoir que la manière dont on voit les choses et dont on les transmettre pèsera un tout petit peu sur les choses. Donc, le journalisme en tant que tel, c'est pas une école d'humilité. Et c'est tout le problème, mais je pense qu'on va y revenir.
Alors, justement, moi, il y a deux choses qui me semblent. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, avant Internet, ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
juste pour t'interrompre, excuse-moi, ça fait partie de mes défauts, j'interromps beaucoup. Quand j'ai commencé mon travail de journaliste, j'ai commencé par taper sur une machine à écrire. J'ai commencé à taper sur une machine à écrire mécanique, et quand je suis arrivé au Monde, attention, j'avais une machine à écrire électrique. Tu vois, tu ne peux pas imaginer, mais c'était ça le progrès.
Je crois que j'avais un jouet comme ça.
voilà, c'est ça.
Les jouets qu'on s'amuse à démonter pour voir Exactement. Comment ça marchait.
Et donc, tu as besoin de faire moins d'efforts avec une machine à écrire électrique, si tu veux, ça allait plus vite. C'était ça le monde.
Et du coup, en fait, il y a une... Comme la parole n'était pas distribuée, elle était en pyramide, eh ben, il y a une petite partie de gens qui avaient le droit de s'exprimer, enfin, qui avaient la capacité de s'exprimer via les journaux essentiellement papier.
Il y avait quand même la télé et les radios, hein, bien sûr.
Oui,
mais t'as raison, il y avait...
Les deux obstacles que je vois à ça, c'est que j'ai l'impression que c'est tous des Parisiens, parce que les médias, de mémoire, c'était Boulogne-Billancourt, c'était... je me souviens plus, TF1, je crois que c'était Boulogne-Billancourt, enfin, la télé, M6, puis les médias, c'était tout à Paris. Donc est-ce qu'on peut imaginer que la pensée puisse se développer quand elle est centrée sur une capitale, alors que la France, je suis désolé, mais c'est un peu plus large.
En fait, tu avais deux sortes de médias. Tu avais les médias nationaux, et là, tu as parfaitement raison. Les médias nationaux, c'était Paris, donc tu avais les quotidiens nationaux.
Ils donnaient la tendance quand même.
Et on est d'accord. Donc tu avais les chaînes de télévision nationales, les radios nationales, et puis tu avais quand même les médias régionaux. Ça veut dire que tu avais la presse quotidienne régionale qui avait un poids, qui a toujours un poids aujourd'hui, mais qui avait un poids considérable à l'époque. Quand tu étais dans une région, la première manière de t'informer était de t'abonner ou de lire les journaux régionaux.
Mais de mémoire, c'était local, c'est de l'info locale.
Qui te donnait un peu d'information nationale et qui donnait de l'information locale. Mmh. Après, tu avais un peu de télévision régionale aussi, qui étaient les chaînes de France 3 à l'époque.
Mais c'est quand même... Si on,
mais on est d'accord, le grand, on va dire, la vision générale de l'information, des informations importantes, était centrée à Paris. Mais
est-ce qu'il n'y a pas une consanguinité de la pensée quand tout le monde est au même endroit, va dans les mêmes restaurants et en plus, les politiques, sûr. Vous les connaissez tous parce qu'ils sont sur deux rues.
Bien sûr. Il n'y avait pas la distance qu'a permis, on va dire, la multiplication des médias. On est d'accord. Et le vrai problème aussi que tu avais à l'époque, encore que tu avais des diversités idéologiques qui, finalement, je pense, sont plus marquées qu'elles le sont aujourd'hui. Même si ça s'atténuait déjà pas mal, à part quand moi je travaillais. Et il y avait aussi quand même, je vais aussi nuancer ton propos, il y avait aussi une diversité sociologique à l'intérieur des médias et parmi la profession de journaliste qui a, à mon sens, disparu aussi. Tu vois, on parlait du Monde. Quand je suis arrivé au Monde, donc au début des années 90, il y avait des gens de toute génération, donc déjà... Il y avait des jeunes blancs-becs comme moi, enfin relativement jeunes blancs-becs à l'époque comme moi, et puis tu avais des gens de plus de 60 ans, tu avais des formations très très différentes, des parcours idéologiques très différents, tu avais des énarques et des normaliens, mais tu avais des gens qui n'avaient pas le bac.
C'était arrivé à 25 ans au Monde à peu près
un peu plus âgé, une petite trentaine d'années en général.
Ouais. À 28
c'est ça. Le Monde prenait pas des tout jeunes journalistes, prenait des gens avec un tout petit peu d'expérience. Et donc, il y avait différentes... origine sociologique, différents types de formations. Il y avait des gens qui venaient du syndicalisme, il y avait des, on va dire, il y avait des démocrates chrétiens, il y avait une petite fraction de libéraux, il y avait des marxistes, il y avait... Donc il y avait une vraie diversité, et je pense que c'était une richesse. L'évolution aussi, en tout cas dans les médias classiques, parce que la diversité elle est ailleurs maintenant, à mon avis, a été vers de plus en plus d'homogénéité, de formation, de génération, et idéologique dans une certaine mesure. Voilà, donc il y avait aussi un vrai combat quand même, droite-gauche qui a plus ou moins disparu, idéologique qui existait encore. Alors on en était à la fin, hein. On en était à la fin, parce que l'URSS a disparu à la fin des années 90, mais, et donc le marxisme à ce moment-là était, mais tu avais quand même une différence entre deux camps assez marquée.
Au sein même de...
Au sein, dans les médias. Alors c'était un peu prévisible. C'est-à-dire que tu pouvais savoir par avance que l'Humanité et ce que le Figaro allait écrire sur une question. Mais il y avait quand même encore ce combat, et il y avait surtout, à mon sens, cette diversité, dans la presse écrite, hein, dans la radio ça existait un peu, dans la télévision non, cette diversité d'origine. Voilà. Qui
et même au sein
manque.
Des rédactions.
Au sein des rédactions. Après, tu as raison sur ce qui est de la promiscuité. C'est-à-dire que le problème, un des problèmes fondamentaux des journalistes, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'est élargi, c'est de savoir en permanence à qui on s'adresse. Quand le journaliste écrit pour ses sources, ou écrit sous l'œil très attentif de ses confrères en ayant ça en tête, il ne fait pas son travail. Et le problème, c'est que tu as une dérive qu'il faut contrôler en permanence. Et si tu ne la contrôles pas, et ben tu arrives à un moment donné à un fait que les médias en général, et les journalistes en particulier, se coupent d'une partie grandissante de la population. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui du côté des médias mainstream. Mais... le réflexe que la hiérarchie dans un média doit avoir en permanence, c'est pour qui on écrit, et bien se rendre compte, vérifier que les journalistes écrivent pour les lecteurs, ou pour ou parlent pour leur audience à la télévision, ou pour leur audience à la radio.
Alors ça, justement, ça pose la question du financement, parce que, et je suis très content de t'avoir aujourd'hui, parce que beaucoup de gens, bah déjà, on sait que la presse française, alors aujourd'hui, c'est 9 milliardaires qui détiennent... oh, je ne sais plus les pourcentages, mais c'est la grosse majorité de toute la presse.
Exactement,
et,
oui.
Et à l'époque, ce n'était pas bien différent, dans les années 90.
Non,
parce que ça coûtait de l'argent.
Il y avait encore des
même.
Groupes de presse, en tant que tels, on va dire, qui ont quasiment disparu. Le Monde, à ce moment-là, était contrôlé quand même par ses journalistes.
La partie rédactionnelle, mais
non, même la partie capitalistique. Donc, il y avait d'autres, il y avait une société des rédacteurs. En fait, les journalistes étaient actionnaires du journal. Via la société des rédacteurs, elle avait le contrôle de la majorité. Petit à petit, elle s'est fait grignoter et maintenant c'est fini. Mais les journalistes contrôlaient leur journal, en tout cas, oui, économiquement, non. Donc il y avait... Mais est-ce que ça garantit l'indépendance? C'est plus compliqué que ça. Tu avais des vrais groupes de presse, mais c'est vrai que maintenant, tous les médias importants en France sont contrôlés par des industriels.
Parce que, en fait, l'idée que beaucoup de gens se font, et surtout en province, des médias, c'est de dire, alors c'est des gars qui habitent au même endroit, leurs enfants vont dans les mêmes écoles, et médias et politiciens, à deux arrondissements près du Jura, c'est pareil. voilà, en un quart d'heure de voiture, tout le monde se connaît, quoi. Et en plus, c'est
alors la différence par rapport au Jura, c'est qu'à Paris, comme l'agglomération fait 10 millions, on a du mal à tous se connaître, mais bon, c'est pas grave.
Je prends. Et c'est des milliardaires qui chapeautent le tout. Entre les journalistes et les politiques qui se causent, c'est les milliardaires, quelque part, qui tirent les ficelles. C'est ça, l'image, en fait.
Oui,
alors... et je me dis, bon, c'est sûrement un peu plus compliqué que ça, et je voulais que tu nous expliques comment toute cette promiscuité
s'organise. Alors, il y a une partie qui est réelle, qui est la concentration du pouvoir économique qui contrôle les médias. Donc, on est bien d'accord, quand un grand patron réussit en France, il achète un média, il prend le contrôle d'un média... Quand un grand patron réussit en Italie, il achète un club de foot. Donc, c'est pas tout à fait la même logique. Et c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'on voit bien en France que les grands groupes économiques et industriels, qui notamment dépendent en grande partie de commandes de l'État ou de normes et de réglementations fixées par l'État, c'est pas inintéressant pour eux d'avoir de l'influence ou de donner l'impression, de donner le sentiment qu'ils ont de l'influence sur l'opinion et sur le paysage politique.
Alors donc comment ça s'appelle? Il y a deux moyens d'influence. Il y a l'influence vers le peuple et vers les dirigeants. Comment ça marche là?
Alors après, on va dire les choses sont plus compliquées que ça. Donc c'est pas contestable ça, le fait qu'il y ait cette logique là. Après pour, on va dire contrôler des rédactions, c'est pas possible. Ça veut dire que il faut bien se rendre compte du fait que un grand patron qui possède un média passe pas un coup de fil tous les jours en demandant c'est quoi la une du journal et qui écrit quoi. C'est impossible.
Il a autre chose à faire.
D'abord, il a autre chose à faire. Ouais. C'est pas physiquement, enfin, il peut pas le faire. Ensuite.
Et pourquoi il peut pas exactement?
Parce qu'il y a trop de choses à contrôler. C'est pas, non, un quotidien, il y a des centaines d'articles. Il peut avoir des gens. Après.
Si je suis milliardaire, j'embauche un gars qui fait le boulot.
Après. Vous ne pouvez pas contraindre quand même des rédactions et des journalistes à être aux ordres et à écrire exactement ce que vous voulez.
Mais, ça c'est pas important, ça. Pourquoi il ne peut pas contrôler? Parce qu'il suffit d'embaucher un gars qui connaît bien la
Alors, je vais vous parler de ce que je connais. Voilà. Donc, j'ai travaillé une petite vingtaine d'années au Monde. On ne m'a jamais corrigé un article pour des raisons idéologiques ou de point de vue économique. Voilà.
C'est toi qui faisais le titre?
Non, mais je participais à faire le titre. Donc, je donnais mon avis. Alors après, quand j'étais dans les hiérarchies, c'est moi qui faisais les titres. Et quand j'étais journaliste, on en discutait. Alors après, c'est pas forcément... Voilà, le titre était changé parce qu'il était meilleur. Mais c'était un consensus, on en discutait, et il n'y avait pas... En tout cas, le rédacteur en chef ou le responsable du secrétariat de rédaction qui faisait le titre ou qui changeait le titre ou avec qui on faisait le titre, avait pas forcément... Enfin, n'avait pas d'arrière-pensée, il n'était pas manipulé. Il essayait de faire le meilleur titre. Il était pas forcément, c'est-à-dire, le choix n'était pas forcément heureux ou le choix n'était pas forcément le bon, mais il n'y avait pas de présupposé. C'est-à-dire qu'on interprète, on surinterprète la façon dont les médias sont faits et on surinterprète la capacité à contrôler la façon dont les choses fonctionnent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de poser une question à la radio ou à la télévision, même si elle vous déplaît. Donc, oui, la notion de contrôle n'existe pas. Après, il est vrai que un patron peut pousser un média à, on va dire, à avoir une certaine ligne ou à adopter une certaine position générale qui se traduit de temps en temps par des prises de point de vue, par de la hiérarchie de l'information, par le fait de mettre des choses en avant et pas d'autres. C'est vrai tout ça. Mais la notion de contrôle étroit, telle qu'on peut l'imaginer dans une théorie du complot, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. C'est trop compliqué. Ça ne peut pas se mettre en place.
C'est plus fin que ça, quoi. C'est plus subtil.
C'est plus subtil, c'est moins évident. Et après, je pense que, à mon sens, ce qu'il y a de plus important, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que la sociologie de la profession de journaliste. C'est-à-dire fondamentalement, comment les journalistes se voient, quel est le poids du corporatisme journalistique, comment ils comprennent les choses, de quelles écoles ou de quelles universités ils sortent, dans quel moule ils sont, quelle est la pression, on va dire entre guillemets, idéologique de leur environnement.
L'esprit de chapelle, ce qu'on appelle.
L'esprit de chapelle, voilà, exactement. Tout ça, à mon avis, est plus important. Mais le côté, il y a une grande manipulation par 10 patrons qui contrôlent tous les médias et tout ce qui sort.
Non, mais
ça fonctionne pas.
Par exemple, pour arriver à... Enfin, moi, si je suis milliardaire et que je mets quelques millions dans un journal, c'est pour en faire quelque chose. C'est pas juste pour le plaisir des yeux. Et le fait de dire, on parle de... Enfin, il y a une ligne qui s'installe éditoriale. Et globalement, les gens savent bien de quoi il faut parler, de quoi il faut pas parler. Est-ce qu'il n'y a pas une pression en disant, bon, bah, les gars, ils sortent tous des mêmes écoles, donc ils ont appris la même chose. Donc déjà, ils sont pas dangereux. Par exemple, moi, on va pas me faire intervenir pour parler de l'euro dans le monde, parce que je vais casser la vitrine. Donc, à un moment, oui. Enfin, ce que je veux dire, l'euro, par exemple, c'est bien parce que autant le racisme, c'est un truc, c'est très clivé, et clivant. Par contre, l'euro, c'est une question économique qui devrait être une question technique et politique, et ça rejoint la pile des sujets religieux.
C'est-à-dire que non, sur l'euro, tu as en partie raison.
On peut pas secouer le vaisselier comme ça.
Tu as raison, mais maintenant, si tu veux, je pense pas. On va dire exactement les choses.
Pourquoi les journalistes
je pense
sont
pas
tous
que,
pour l'euro?
Si tu veux, Bernard Arnault, qui possède des médias, ou François Pinault, qui possède des médias, ou Xavier Niel, qui possède des médias, et un quelconque intérêt ou pas à ce que quelqu'un écrive des articles en disant il faut sortir de l'euro ou pas. Ils en ont rien à faire, ça n'a aucun impact sur leur vie, ça a aucun impact sur la réalité, sur la réussite de leur business, et ça a aucun impact sur leur influence.
Mais chez Canal+ et chez BFM, là, on est quand plus... il y a eu un changement de direction, il y a eu du turnover, comme on dit.
Il y a eu du turnover parce que
directionnel.
Parce que on va dire Vincent Bolloré a voulu prendre le contrôle de la boîte qu'il rachetait, et donc il a mis des hommes à lui. Et les hommes à lui.
Et ils savent comment penser. Il n'y a pas besoin de leur expliquer.
Oui, ils ont une vision différente des choses. Je suis d'accord. Mais on pourra revenir à ta question de l'euro, mais on peut parler d'autres. Question de l'euro, il n'y a pas de pression des patrons de groupes de médias pour qu'il n'y ait pas des thèses qui disent qu'il faut sortir de l'euro qui se diffusent. C'est pas vrai. Il y a une pression idéologique du politique. Là, c'est la pression du politiquement correct, on va dire. Mais ça, elle existe dans les médias, mais elle est un peu générale. Et d'ailleurs, et par ailleurs, il y a quand même un certain nombre de médias où de temps en temps, il y a des gens qui sont adversaires de l'euro qui s'expriment. Ça existe.
On trouve. Curieux, en fait, que sur un sujet qui pourrait être très débattu, il y a une unanimité comme ça au sein de la presse, et puis les articles qui sont contre, on les retrouve en troisième page recherche Google, et puis ou alors...
T'as raison, c'est le problème de...
Donc je me dis, les mecs sont formatés, ils savent comment penser,
exactement.
Et il n'y a pas besoin de leur expliquer, quoi. C'est comme moi, j'ai un DG, je n'ai pas besoin de lui dire tous les jours, tu fais ça, puis la ligne du parti, il la connaît.
C'est des opinions partagées, voilà. Mais tu vois, je vais reprendre, je vais juste parler de ce que je connais. Quand j'étais au Monde, je faisais partie d'une petite minorité de journalistes économiques qui étaient libéraux. Il y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais qui sont connus parce qu'ils ont écrit longtemps ou ils continuent à écrire dans d'autres journaux. Je peux en citer deux. Par exemple, Éric Leboucher, qui était un chroniqueur connu, qui continue à écrire.
Il a fait son coming out de libéral, parce qu'en France...
Quand il écrivait au Monde sa chronique hebdomadaire, tout le monde savait qu'il était libéral, et il avait souvent des volets de bois vert, c'était pas grave. Pierre-Antoine Delhomé, qui aujourd'hui, notamment est chroniqueur pour Le Point, était un libéral et un libéral assumé. Je l'étais aussi. Donc il y avait des divergences idéologiques qui s'exprimaient, et sans trop de problèmes. Et Edoui Plenel, c'est pas exactement un libéral, qui était directeur de la rédaction du Monde, il savait qu'on était libéraux, ça le gênait pas qu'on écrive de ce qu'on pensait d'un certain nombre de choses, et qui étaient, on va dire, des opinions assez différentes des siennes. Donc, les choses sont plus compliquées que ça.
Ça n'a pas disparu aujourd'hui.
Je ne suis pas au Monde aujourd'hui, donc je ne peux pas en parler.
Non, mais
tout ce que je sais, c'est que les tensions... mais ça, c'est une banalité. Les tensions au sein de la société entre, on va dire, les gens qui pensent les choses différemment sont devenues plus fortes et plus grandes. On va dire l'intensité des oppositions est plus grande. La difficulté à dialoguer est devenue plus grande aussi. Donc tout ça est vrai. Mais est-ce que ce sont des opinions inacceptables? Les journaux sont devenus plus militants, je suis d'accord. Ils acceptent un peu moins...
Plus directionnels, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont...
Ils acceptent un peu moins, effectivement, les opinions divergentes. C'est clair du Monde, c'est clair du Figaro, voilà. Je suis d'accord.
Et du coup, pour en revenir à toi, en 2001, tu pars aux États-Unis en tant que correspondant. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, c'est pas le même métier. Quand on est... Enfin, tu m'arrêtes, hein, mais l'image que j'en ai, c'est qu'un journaliste, il est dans son bureau, il lit, il comprend, il parle un peu et puis il réécrit. Et un correspondant, lui, c'est la septième compagnie sur le terrain, quoi.
Et alors, c'est faux.
Ils n'ont pas la même image.
Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, alors, quand je te disais que j'avais vécu une espèce d'âge d'or, c'est que le fait qu'il y avait un relativement peu grand nombre de journalistes et qu'il y avait un relativement peu grand nombre de médias fait que ces médias avaient une influence et un poids important. Ce qui veut dire que tu rencontrais les gens que tu voulais rencontrer. Quand tu étais au Monde, un des avantages du Monde, c'est que tu appelais n'importe quel patron, n'importe quel ministre ou secrétaire d'État.
Il décroche.
Si tu voulais le voir, tu le voyais. Il décroche, et il décrochait comme c'est un journal du soir, il décrochait le matin à 7h. Puisque, si tu veux, il fallait le finir à 10h. Il fallait se lever très tôt quand on était au Monde. Il allait travailler très tôt. Donc, ça, c'était l'avantage. Mais tu ne restais pas dans ton bureau, tu sortais. A fortiori, imagine, alors maintenant, quand il n'y avait pas beaucoup d'Internet. Tu étais informé par les dépêches ou tu étais informé en allant rencontrer les gens.
Oui, mais quand tu traites les sujets à New York et que tu es à Paris,
En général, c'était les gens qui étaient à New York qui les traitaient plutôt. Alors, bon, tu pouvais, mais je suis d'accord. Quand tu parlais, j'en sais rien, de l'évolution de Wall Street, c'était pas forcément le mec à New York qui s'occupait de ça parce qu'il avait autre chose à faire. Effectivement, là, tu utilisais des dépêches d'utiliser des informations que tout le monde avait.
Alors, qu'est-ce que ça change correspondant sur le terrain à New York?
Alors, je continue à dire, c'est le même métier, mais ce qui change, c'est ta vision des choses. C'est-à-dire que tu comprends, de mon point de vue, beaucoup mieux la France quand tu es à New York. Voilà, mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que ça te crée une certaine distance. Après, ce qu'il y a d'absolument génial, et c'est pour ça que j'ai vécu, je pense, la fin d'un âge d'or, c'est quand j'étais à New York, j'ai passé ma vie à me balader dans tous les États-Unis, à rencontrer les gens partout dans tous les États-Unis. J'ai été à peu près dans tous les États. J'ai pas dû aller à Hawaï et à Alaska et en Alaska, mais sinon je me suis baladé partout. J'ai rencontré des gens, j'ai fait des reportages, j'ai été sur le terrain. Le 11 septembre, j'étais au World Trade Center. Quand il y avait l'ouragan Katrina, j'étais à la Nouvelle-Orléans. Il y a eu plein de choses. Je suis allé suivre des procès, je suis allé suivre des campagnes électorales. Je suis allé voir l'élection de Schwarzenegger en Californie. Donc je me suis baladé partout. On va dire, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme j'étais basé à New York, mais j'étais, on va dire, 2 semaines sur 4 en vadrouille, j'ai pu commencer à essayer de comprendre un tout petit peu les États-Unis.
C'est différent quand même, quand on est en vadrouille tout le temps. C'est passionnant.
C'est différent en ce sens qu'effectivement, tu n'as pas tout l'aspect... puisque avant que je parte aux États-Unis, j'étais dans la hiérarchie, j'étais le numéro 2 du service économique à ce moment-là. On va dire, tu n'as pas l'aspect gestion d'une équipe. Parce qu'il y a un travail, on va dire, de mécanique pour fabriquer un journal derrière. Effectivement, tu as plus de liberté en ce sens-là. Mais c'était un poste convoité, et si tu veux, ça faisait des années que je voulais l'avoir, et j'ai mis quelques années à l'avoir. Voilà.
Et d'où vient ce sentiment, moi, quand sur les sujets que je connais très bien, quand je lis la presse, je me dis, ah, quand même, le traitement, il est spécial. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un décalage entre le traitement médiatique et la réalité, justement, qu'on observe sur l'énergie, par exemple, on en reparlera, mais sur l'hydrogène, quand je vois ce qui s'écrit sur l'hydrogène et ce que je vois quand on compte, et on se dit, mais de quoi on parle? D'où vient ce décalage? Et je prends l'hydrogène parce que c'est un sujet ultra neutre. La plupart des gens ne savent pas de quoi je parle.
C'est juste pour illustrer que c'est un sujet neutre parce que c'est la transition énergétique.
Oui, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas
un sujet politiquement neutre.
Oui, voilà.
Mais puis dans ce domaine-là,
ça ne va pas affoler les pouces rouges. Ça ne va pas. Mais sur beaucoup de sujets, le Japon ou l'Asie ou des sujets que je connais pas mal, quand je vois comment c'est traité dans la presse, je me dis, ah, quand même.
C'est faible.
S'ils traitent les autres sujets que je ne connais pas et avec lesquels je m'informe comme celui-là...
T'as un vrai doute. En fait, il y a, je pense... Alors, tu as raison, première chose. D'abord, la complexité des choses a cessé de grandir. C'est une première chose. Et finalement, les spécialistes des domaines ou les gens qui connaissent des domaines deviennent de plus en plus pointus. Ça, c'est une première chose. Les médias classiques ou les médias, on va dire les médias grand public, n'ont pas des gens suffisamment pointus donc pour avoir la connaissance des experts et des spécialistes et des professionnels. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont censés les interroger. Leur boulot après est de ne pas forcément s'adresser aux professionnels, parce que ce n'est pas ça l'intérêt. C'est d'essayer de, on va dire, de passer les plats. Donc d'essayer de comprendre ce que le professionnel raconte, parce qu'ils sont censés connaître un peu le sujet, et après de faire de la bonne vulgarisation ou de faire une explication, de mettre les choses en perspective, de transmettre. Donc leur rôle, c'est de transmettre une information qui est celle d'un expert à un public plus large.
Une sorte de popularisation.
Oui, vulgarisation, etc. Mais si tu es un expert ou un spécialiste, forcément tu es déçu parce que les choses ne sont pas à ton niveau. Ça, c'est une première chose. Après, il y a une dégradation, de mon point de vue, mais ça fait vieux schnock, donc je suis toujours embêté quand je dis ça. Il y a une dégradation générale de la qualité, des rédactions, liée à un manque de moyens, liée au fait que quand il y avait quelques médias, on va dire, qui contrôlaient l'ensemble de la diffusion. Ils avaient des moyens supérieurs, ils avaient des ressources publicitaires supérieures. Donc, ils pouvaient, si tu veux, avoir des rédactions plus importantes ou mieux formées. Ce que je pense, moi, la qualité des quotidiens, et dans une certaine mesure des radios, voire des télévisions, c'est ce qu'on appelle toujours le rubricard. C'est quoi le rubricard? C'est le type qui est spécialisé sur une question dans une rédaction et qui, pendant des années, travaille sur cette question. Et donc, il a le temps de l'approfondir, qui a le temps de devenir bon, qui a le temps de connaître toutes les sources, qui a le temps de comprendre. Alors, il n'est pas forcément aussi pointu qu'un expert, comme tu peux l'être, dans un certain nombre de domaines, mais il sait de quoi il parle, et en général, il dit plutôt des choses relativement sensées. Or, le problème, c'est que former un rubricard pendant des années, faire que Il va succéder à un rubricard plus ancien qui va travailler avec lui pendant quelques temps. Ce qui se faisait au Monde à l'époque, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Ça coûte cher, ça prend du temps. Ça oblige au fait à aller chercher des gens qui sont quand même des gens de bon niveau. Et à un moment donné, le journalisme n'est pas forcément aussi bien payé que faire autre chose.
Ça gagne. Donc, quand combien, je te disais, journaliste, à peu près
c'est très variable. Mais quand je te disais qu'au Monde, quand je suis arrivé, il y avait des énarques et des normaliens, je pense qu'il n'y a plus aucun énarque. Je ne sais pas s'il y a des normaliens au Monde aujourd'hui. Parce qu'il y avait des gens d'HEC, il y avait des fois des gens qui venaient d'horizons très divers.
Un cadre en province, c'est 2 500, 3 000 euros. Un journaliste, il se situe où par rapport à ça, au Monde, au Figaro?
Je ne sais pas aujourd'hui, je ne peux pas te dire. Je ne sais pas, je pense qu'il a mis en moyenne, mais je ne sais pas quels sont. Allez, il doit avoir 3 000, 4 000 euros, quoi, quelque chose comme ça. Alors si c'est un rédacteur en chef, il peut avoir plus, enfin tu vois, des choses comme ça.
Ouais, donc je pense que c'est pas assez suffisant pour le normalien, mais c'est déjà des bons salaires.
Je ne dis pas que ce n'est pas des bons salaires, mais si tu es un énarque ou si tu es un type qui sort d'une grande école de commerce, tu essayes d'avoir, t'aspires à quelque chose de plus important. Et puis par ailleurs, le prestige qui existait a un peu diminué, tout simplement parce que le truc s'est banalisé. C'est ce qu'on disait.
Donc il y a une baisse
voilà,
du niveau du journalisme.
Donc il y a une baisse de niveau et il y a, de toute manière, on va dire, les spécialistes ou les experts d'une question ne sont pas les gens à qui... les médias essayent de s'adresser par là. Ça n'excuse pas le fait qu'il y ait beaucoup de
bêtises. Quand j'entends dans les médias, par exemple,
erreurs.
Que la Chine est un pays exportateur et qu'il n'y a pas de demande intérieure en Chine, alors qu'ils sont à près de 10 000 milliards de dollars, donc c'est les deux tiers des États-Unis presque, en termes de demande intérieure, j'ai
Et c'est le premier marché d'exportation du luxe français.
Peut-être qu'il y a une autre Chine, je ne sais pas. Ils ont découvert un pays d'un milliard d'habitants quelque part, je ne sais pas.
Alors après, il y a le problème de la culture générale, du fait qu'il y a des gens qui travaillent ou qui ne travaillent pas, de la façon dont ils sont sélectionnés. Il y a un problème de niveau et de qualité. Mais j'espère, enfin je continue à croire, que les bons journalistes économiques ne diraient pas des insanités pareilles. Je crois et je pense qu'on doit avoir des gens aux Échos, des gens au Monde, des gens au Figaro et sans doute dans les grandes stations de radio qui sont des spécialistes de l'économie qui ne diraient pas des horreurs pareilles. Mais des bêtises, t'en trouves partout et des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, t'en as malheureusement beaucoup.
Et est-ce que c'est pour ça qu'il y a une défiance qui s'est installée et qu'il y a de plus en plus de gens qui se déroutent vers des médias Et médias, c'est un grand mot, mais je veux dire, il y a des gens qui me considèrent comme un média, moi tout seul, sur ma chaîne. Il y a plein de petits sites. Alors avant, c'était les blogs dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est plus les chaînes YouTube et les podcasts. Mais voilà, est-ce que comment le journaliste vit cette désaffection en disant finalement, le gars là qui est dans sa campagne ou qui fait son petit truc, c'est mieux que la grosse rédaction de 100 personnes centralisée.
Il y a deux choses à dire à ça. D'abord, dans quoi ça s'inscrit? Ça s'inscrit dans un contexte général de remise en cause de toutes les autorités donc et de tous les pouvoirs. Donc le pouvoir médiatique, il n'y a aucune raison qu'il soit épargné. Donc tu as un grand mouvement général depuis 20 ans de démolition de toutes les autorités, qu'elles soient morales, religieuses, politiques, institutionnelles, scientifiques et médiatiques. Donc, on va dire, ce qui est les élites, j'aime pas du tout ce mot, mais donc les élites médiatiques, au même titre que les élites politiques ou que les élites scientifiques, ont perdu leur magistère. Parce qu'ils n'ont plus le monopole de la parole.
Les élites qui? Voilà.
Donc, voilà, les élites qui? Mais en tout cas, on va dire les journalistes des médias importants, ou les médias importants.
Les éditorialistes?
Tous. C'est-à-dire que de mon point de vue, le rejet des médias en général s'inscrit dans cette tendance-là. Après, comment c'est vécu, c'est la deuxième partie du sujet. Mais je pense que ça s'inscrit vraiment dans ça, et on vit ça tous les jours. Et si tu veux, la pandémie est encore un magnifique exemple du fait que, quand on regardait les sondages avant la pandémie, je ne sais pas ce qui existe aujourd'hui, dans les autorités intellectuelles ou morales qui étaient préservées, il y avait encore la médecine. Je ne sais pas dans quel état elle est aujourd'hui. Mais ça faisait encore partie d'autorités qui tenaient. Et donc, tu as, tout simplement, parce que tu n'as plus le monopole du magistère et de la parole, donc on n'est plus dans cette pyramide inversée qui faisait que les autorités scientifiques, politiques, institutionnelles, les partis, les syndicats, les journalistes, enfin bon, les autorités religieuses, on va dire, diffusaient la bonne parole et le peuple, on va dire, l'avalait. Tout ça a été battu en brèche. Tu connais ça mieux que moi, puisque tu es dans ce monde-là. Tu es de ce monde-là et tu es le fruit de ce monde-là. Et tout ça a été balayé, battu en brèche, par l'Internet, par les réseaux sociaux, enfin voilà, c'est pas l'objet ici. Et donc, les médias, dans le monde entier, on va dire, entre guillemets, victimes de cela. Comment c'est vécu? C'est vécu de deux façons. Je pense que ça a été vécu comme un traumatisme dont les médias ne sont pas tout à fait remis. Aujourd'hui, ils ne sont pas remis. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, je pense que la conséquence de ça aussi, c'est que pour ce qui est des médias généraux, ils se sont accrochés à ce qu'ils sont, accrochés à leur vision du monde, à leur idéologie, mais du coup, de mon point de vue, ils se trouvent dans une sphère ou dans une bulle qui ne cesse de se rétrécir. C'est-à-dire que la part de la population désaffiliée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça,
oui,
en tout cas qui ne s'informe plus via les médias classiques, ne cesse de grandir. Et il y a une espèce de refus de voir ça, et à la limite de combat idéologique. C'est ce qu'on disait, de plus en plus intense dans les différents pays, parce qu'il y a un refus de ce vieux monde, je ne sais pas si c'est un vieux monde, d'accepter cette réalité-là.
Mais j'ai l'impression, en fait, que les médias mainstream refusent le débat idéologique, alors que l'idéologie, c'est très bien. Enfin, je veux dire, il faut avoir des idées, il faut avoir un cap, une morale, une ligne directrice, il faut avoir voilà, une colonne vertébrale. Et globalement, le débat, il se déporte sur les réseaux sociaux et il se cristallise autour de quelques points voilà, de gars là, qui s'agitent dans la caméra. Parce qu'au final, il y a plus de débat dans les médias mainstream.
Je suis d'accord. En tout cas, le débat s'est appauvri et c'est un vrai problème. Je suis
d'accord.
Il y a une vraie crise. Il y a une
crispation.
Il y a une crispation. Il y a un refus d'accepter que. C'est compliqué d'accepter le déclin.
Et alors, il y a du complotisme, je suis d'accord. Je veux dire, il y a des mecs qui pensent que la Terre est plate et tout. Bon, il y a des délires. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle complotiste, c'est le gars qui ne fait pas partie de la bande et qui commence à. Voilà, tout ce qui est hors ligne de pensée, tout ce qui est en dehors du cadre école de journalisme, ENA, voilà, du cadre dominant à Paris, et ben au final, on appelle ça du complotisme parce que c'est comme si, quelque part, on complotait contre leur pouvoir que de remettre ces sujets-là en question, quoi.
Alors, c'est toujours ça. C'est plus nuancé que ça, mais tu as raison en partie. C'est-à-dire qu'effectivement, il est facile... quand on n'accepte pas une opinion ou quand on n'accepte pas un point de vue, de dire c'est du complotisme. Maintenant, ça existe aussi, c'est une réalité. Il circule beaucoup d'absurdités. Mais comme on est dans un débat de plus en plus virulent et qu'effectivement le dialogue est devenu de plus en plus compliqué, on va dire, entre les deux ou trois parties de la société, hein, je considère qu'il y a deux France, il y a trois France. Enfin, peu importe, ce n'est pas l'objet non plus. Tu as raison, on met des étiquettes. Donc, si tu veux, il y a les étiquettes de... Il y a les indigénistes, et puis il y a les complotistes, et il y a la France périphérique, et il y a les bobos parisiens, et il y a la France des racailles des banlieues, etc. Tout ça, c'est des étiquettes. Tout ça, c'est caricatural. Et les médias n'échappent pas à la caricature non plus. Ce qui est dommage, parce que normalement, leur vocation, c'est justement d'aller un peu plus, de sortir de ça. Mais ils le font pas, ou ils le font de plus en plus mal.
Et ça, tu es bien placé pour en parler. Je te pousse là-dessus, parce que tu as écrit un livre. Alors, c'est un livre sur l'automobile.
Oui, c'est un
livre. Mais en vrai, c'était le diagnostic bien senti de ce qui a donné la crise des Gilets jaunes. Tu as vu, toi, qu'entre le Paris et la province des campagnes, que Paris, Lyon, Marseille,
ou des petites villes,
voilà,
oui, enfin, entre les métropoles et on va dire la France périphérique de
Il y avait des réalités qui, il y a une dérive des plaques là. on s'est éloigné.
Alors le diagnostic, c'est ça. Voilà, en fait, ça reflète ce que tu disais un peu sur le fait que ces deux mondes qui ne se voient plus ou qui ne se comprennent plus. Et c'est ça qui est préoccupant. Et je pense que c'est le principal problème des médias aujourd'hui. Pour en revenir à cette question de l'automobile, donc effectivement, j'ai sorti 2 mois avant le mouvement des Gilets un petit livre qui s'appelle L'automobile, France d'en haut contre France d'en bas. Le diagnostic aujourd'hui, il est évident pour tout le monde. Et le plus incroyable, c'est qu'il ne l'était pas tout à fait à l'époque, quand le livre est sorti. Le diagnostic est tout bête. C'est que quand tu vis dans une métropole et tu as un moyen de substitution au transport individuel motorisé, notamment à la voiture, ton rapport à la voiture n'est pas le même que quand tu vis dans la France, des campagnes, des petites villes, des zones périurbaines, et que tu ne peux pas vivre sans voiture. C'est une banalité, enfin, c'est une évidence totale. C'est-à-dire, si tu as besoin de ta voiture pour aller travailler, pour aller te faire soigner, pour voir ta famille, pour faire des courses ou pour aller étudier, tu tu es totalement dépendant de la voiture. Et si on considère dans le pouvoir central en France que la voiture est une nuisance et que c'est une vache à lait fiscale, et que si tu pressures des gens qui ne peuvent pas s'en passer, au bout d'un moment, tu vas avoir des problèmes sociaux et politiques et ces gens-là vont se révolter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mmh. Voilà. Donc c'est banal hein, comme vision des choses. Le plus incroyable, mais c'est une illustration de ce qu'on disait, c'est qu'il y a une espèce d'aveuglement, d'incompréhension entre deux mondes qui se sont éloignés les uns des autres.
Et puis, il y a aussi cette sensation de la France qui paye et la France qui profite. C'est-à-dire que quand vous êtes à la campagne, il n'y a pas de service public, ou très peu. Vous avez l'école, la poste de temps en temps, et tout est parti. Il n'y a pas l'opéra, il n'y a pas le tramway, il n'y a pas le métro, il n'y a pas... Mais les impôts sont les mêmes. Et quand vous êtes à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille, à Bordeaux, pour ne pas taper toujours sur les mêmes, il y a le service public et quelque part, on se dit, bah, ok, je paye, mais à Lyon, j'ai les quais de Saône, j'ai l'opéra, j'ai machin. Et c'est là où on se dit, on a peut-être deux France, enfin deux France, c'est un peu cliché, mais on a peut-être des réalités qui, plus, en fait, la voiture compense l'absence de service public que les autres...
Ouais, je dirais même pas ça, c'est une nécessité.
La crise est venue dans
C'est une nécessité, c'est-à-dire que la façon dont la vie est organisée aujourd'hui fait que on peut pas se passer d'une voiture pour vivre tout simplement quand on habite dans des petites villes ou des zones périurbaines. Maintenant, pour en revenir à on paye des impôts et on a l'impression de ne pas en avoir pour son argent, etc., c'est le problème de la France. Donc c'est pas spécifique à la France périphérique ou aux métropoles. C'est-à-dire que le problème de la France, c'est qu'on a un État obèse et de plus en plus inefficace. Donc, on a un État qui ne fonctionne pas bien. On est mal gouverné, on est en France. On dépense, pour reprendre une expression qui n'est pas la même, un pognon de fou et on n'a rien qui revient. Et la pandémie, à nouveau, était une démonstration. C'est-à-dire qu'on a, on dépense beaucoup d'argent pour notre système sanitaire et il n'est pas très efficace, il ne fonctionne pas très bien. Et c'est une réalité partout. C'est-à-dire, mais le problème de le fait qu'en France l'État c'est pas la solution, c'est le problème. Ça concerne, à mon sens, aussi bien les métropoles que la France périphérique.
Bah, sauf que si l'État s'arrête dans les grandes villes, c'est cuit. Je veux dire, si on arrête les services publics en ville, ça met un bazar monstrueux. Dans les campagnes,
moi j'habite dans le premier, je suis pas parisien, mais j'habite.
Il s'est arrêté il y a 30 ans, quoi.
Oui, mais je suis pas parisien d'origine. Mmh. Je suis né dans le Nord et j'ai vécu pas mal de temps dans le Nord. Je suis né à Lille. Ouais. Donc, je vis à Paris depuis que je suis journaliste parisien.
Voilà. Qui a bien souffert, le Nord.
Voilà, exactement. Il y a une zone de vieille industrie. Mais toujours est-il que j'habite à Paris, dans le premier arrondissement. Je n'irai pas plus loin que ça, mais depuis des décennies. Il s'avère que les services publics également se réduisent. Les bureaux de poste dans le premier arrondissement ferment les uns après les autres. Je ne crois pas qu'on puisse distinguer là. Autant on peut distinguer de France dans le fait que la mondialisation, l'ouverture des échanges, c'est surtout fait au détriment, on va dire, de la France périphérique, fait au détriment des entreprises et des industries qui faisaient vivre les petites villes, ou même d'activités agricoles et autres qui faisaient vivre la France périphérique ou la France rurale. Tout ça est vrai. Après, le fait que l'État privilégie les métropoles ou les grandes villes, non, je pense qu'il est inefficace partout. Je pense que il utilise très très mal l'argent et de manière irresponsable des contribuables et des Français. On est quand même le pays où la dépense publique, avant la pandémie, en tout cas le pays développé, était la plus importante. On est le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. Et on est le pays où, on va dire, l'État a de plus en plus de mal presque à remplir ses fonctions régaliennes. La justice, la police, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Les résultats en matière d'éducation, et pourtant on est parmi les plus dépensiers en matière d'éducation, sont très mauvais quand on voit les classements internationaux. Enfin voilà, on sait tout ça. Je crois pas qu'il y ait de différence. Donc je comprends bien que dans le Jura, on se dise, mais c'est quoi cet État totalement impuissant? Malheureusement, on a aussi ce sentiment à Paris.
À Paris. Et du coup... Et du coup, sur la base de ces constats, en 2007, donc tu reviens en France, tu es nommé directeur du service économique au Monde.
Oui, chef du service économique.
Voilà, en chef, avant tu étais le numéro 2, maintenant c'est le numéro 1.
D'ailleurs, on me fait revenir pour ça, mais bon, voilà.
Voilà, et puis après, tu as envie de créer ton propre, ta propre entreprise, quelque part, journalistique, médiatique, avec une déclinaison française de Slate,
justement. Alors, ce n'est pas le premier plan. Le premier plan, c'est, donc, il s'avère que quand j'étais aux États-Unis, Slate me plaît bien. Donc, un magazine purement numérique, qui profite du fait d'être purement numérique, qui est le premier même magazine purement numérique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un grand journaliste américain qui dit publiquement, j'aimerais bien créer un média purement numérique. Il travaillait, il était à un moment patron d'un hebdo qui s'appelle New Republic, peu importe. Et à ce moment-là, il y a Bill Gates, qui est le patron de Microsoft, qui dit, OK, tu peux essayer, je te donne les moyens, tu viens chez moi. Et donc, il part avec la moitié de sa rédaction à Seattle, et il crée un truc qui s'appelle Slate. Alors, c'est une espèce de mélange de fanzine, de trucs. Il cherche ce que c'est.
Ça veut dire quoi, Slate? C'est quoi
Ardoise en anglais.
Ça veut le dire pitch, même, c'est quoi le principe derrière ça?
Le principe, c'était profiter, on va dire, de la liberté du numérique pour créer un média magazine, mais magazine quotidien, c'est-à-dire avec des articles tous les jours, mais néanmoins, qui ne soit pas des news, de l'information immédiate, mais qui soit une manière, on va dire, originale, contrariante, différente, on va dire, de casser les codes et sortir du moule du journalisme classique en profitant de l'outil numérique.
Donc c'est pour ça que ça t'a plu, en fait. C'est parce que tu t'es retrouvé dans cette diversité d'opinions au sein d'un journal, quoi.
J'ai trouvé que ça, ça apportait vraiment quelque chose.
Sortir de l'entonnoir, quoi.
Voilà, et puis il y avait une espèce de recul. Et puis le côté magazine au quotidien me plaisait bien. C'est-à-dire, pas être... L'information immédiate, c'est presque aujourd'hui une matière première. Et sortir un peu de ça, et puis la liberté qu'ils avaient. Donc le modèle me plaisait bien, ça fonctionnait bien. Et donc j'ai sympathisé avec les gens qui s'occupaient de ça aux États-Unis. Et à ce moment-là, Slate n'était plus chez Microsoft. Il avait été. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas un avenir, notamment commercial, parce que quand on est Microsoft, par définition, aller voir des publicités, c'est compliqué. Et donc ils ont décidé de se vendre à un média, et eux-mêmes ont décidé de se vendre au Washington Post, qui était prêt à les reprendre. Donc quand je suis devenu. Quand j'ai établi des bonnes relations avec.
C'est très institutionnel.
C'est très institutionnel. Mais Slate était à côté, ils avaient la grande liberté. Ouais. À ce moment-là, Washington Post n'était pas possédé par Jeff Bezos, mais c'était possédé par une famille qui les laissait tranquilles et qui aimait bien ce qu'ils faisaient. Et donc, j'ai sympathisé avec eux. Et quand je suis revenu au Monde pour m'occuper du service éco, l'idée était de faire un Slate en France au sein du Monde, en disant on va faire ce que fait le Washington Post. Pour tout un tas de raisons qui étaient que le monde était en crise, qu'il y a eu des changements de pouvoir, de trucs, de machin. On n'a pas réussi à le faire là. Et donc, j'ai été le faire en dehors du monde, avec l'ancien patron du monde qui était Colombani, et puis avec un certain nombre de gens qui se sont associés. Éric Le Boucher, dont on a parlé, qui était le journaliste libéral. Jacques Attali, qui gentiment a été prêt à nous aider.
Mais pourquoi Attali? Qu'est-ce qu'il faisait
parce
là
que...
Il s'est perdu
pourquoi... Non, il ne s'est pas perdu, mais il a... Alors,
dans un journal
j'ai une grande sympathie et j'ai une grande irritation avec Jacques Attali. C'est-à-dire que c'est très ambigu avec lui. C'est quelqu'un de très brillant. Comme on dit en anglais, c'est un Renaissance man. C'est-à-dire c'est un type qui est capable de faire des choses absolument incroyables. C'est-à-dire que il faut quand même voir ce qu'il est capable de faire. Et après, il m'énerve beaucoup. Attention, on va y arriver. Mais donc, il est capable de diriger avec succès un cabinet de conseil aux entreprises. Il est capable d'avoir été on va dire, le Sherpa du président de la République, François Mitterrand, en matière de questions internationales. Il est capable d'écrire des livres, un tous les 3 mois, et c'est lui qui les écrit, c'est le seul type que j'ai vu qui avait une fracture de fatigue avec un plâtre sur son poignet à force de taper.
Et il avait des toujours une machine à écrire
Il prévoit, pardon.
Il avait toujours une machine à écrire, c'est ça
Non, je crois pas. Mais il est capable d'écrire des pièces de théâtre, de diriger un orchestre symphonique, c'est absolument hallucinant ce qu'il fait. Et j'oublie un certain nombre de choses. Et on va dire, il s'avère qu'on a discuté avec lui, qu'on lui a présenté le projet, et il adore être dans le
ouvert
dans le trend.
Quoi,
voilà. Ouais. Il a quand même écrit des bouquins où il écrivait, avant les années 2000, qu'on allait tous avoir des objets portables connectés. Bon, il s'est parfois planté, mais là, il avait parfaitement raison. Donc, et il a fait ça, on va dire... Je ne pense pas qu'il avait un intérêt immédiat. Je le défends, hein, mais après, ses prises de position politique, sa volonté d'être toujours dans le jeu, d'avoir de l'influence, est parfois irritante. Mais il nous a accompagnés de manière honnête et sincère. Voilà. Il y a lui, et il y avait, personnage très important, Johan Hufnagel, donc un vrai journaliste numérique, qui ensuite a été après le numéro 2 de Libération, et qui maintenant s'occupe d'un média... vidéo purement numérique, qui est Loopsider. Voilà. Et donc, on a décidé finalement, avec l'accord des Américains, de faire Slate en dehors du monde, parce que c'était impossible au monde. Et donc, on s'est amusé pendant quelques années à faire ça. Et puis, à un moment donné, en termes d'audience, on a plutôt réussi. Je pense qu'on a réussi, alors je ne suis pas objectif, évidemment, pendant quelques années à être relativement contrariant. C'est-à-dire que l'idée, c'était que quand on venait sur Slate, on ne savait pas forcément ce qu'on allait trouver. Et même sur les questions où on n'était pas sûr de trouver, on n'était pas forcément sûr du point de vue qu'on allait trouver. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que le Slate d'aujourd'hui est assez prévisible et on sait ce qu'il va écrire sur un certain nombre de questions. Moi, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est qu'on ne le savait pas auparavant. C'est-à-dire qu'on ne partait pas avec des a priori. Voilà. Après, on peut se planter, après, on peut être d'accord ou pas d'accord.
Ça,
c'est pas ça le problème. Ouais. Mais j'étais jamais aussi content, en tout cas dans le Slate dont je m'occupais, que quand il y avait deux points de vue très différents sur une question, mais très bien argumentés. Donc, ça me convenait parfaitement. Voilà.
Et il y a quelque chose d'intéressant quand tu dis on ne sait pas ce qu'on va lire. Aujourd'hui, un des gros problèmes avec la presse, c'est que moi, quand je regarde un sujet, je retrouve les mêmes titres sur tous les journaux, et tous, c'est une vingtaine, hein, et ils sont à peu près hiérarchisés pareil, c'est-à-dire que les gros titres, c'est le gros titre, le contenu du titre, les mots-clés sont les mêmes, et puis le contenu de l'article, bah, franchement, ils en auraient embauché qu'un seul, voilà, ils en auraient écrit un, on aurait gagné de la place pour le reste.
C'est tout le problème, les médias sont moutonniers, ils sont pavloviens. Après...
Mais ça vient d'où cette culture? Pourquoi? Enfin, comment on en arrive là? C'est parce qu'ils essayent de réduire les coûts et de faire du...
Alors d'abord, ils réduisent les coûts, ça veut dire qu'ils s'approvisionnent souvent tous aux mêmes sources, notamment les annonces de presse. Ça, c'est une première chose.
Oui, mais on peut avoir un avis critique après sur une news de presse.
Et puis surtout, on peut avoir une autre hiérarchie. Et ça, c'est le problème aussi, c'est le problème dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce d'homogénéité de vision des choses. Alors côté moutonnier, si les autres font quelque chose, il faut absolument qu'on le fasse. Donc il y a ça aussi. Et puis... C'est une incapacité à vraiment penser out of the box. Mais c'est majeur. Ça veut dire à hiérarchiser les choses de la même façon. Je ne reprocherais pas trop aux médias, à la limite, d'avoir les mêmes infos.
Non, mais
en théorie,
pas
pourquoi
habitude.
Pas. Mais de considérer que les plus importantes sont ensemble, sont les mêmes. Ce n'est pas possible, ça.
Par exemple, il y avait Biden et Poutine là, qui s'échangeaient des amabilités la semaine dernière. Quoi. Mmh. Et pourquoi tout le monde a le même avis? Et pourquoi il n'y en a pas un seul qui a un avis
qui est
différent,
pro-Poutine ou qui est pro-Biden, ouais. Etc.
Alors, ils disent, bon, d'accord, mais bon, l'autre quand même aussi. Je m'en fiche de Poutine et Biden.
C'est du cinéma. Je suis d'accord, le sujet en tant que tel. Comment ça se fait
que tous les sujets sont traités pareil?
Alors, c'est pas... Il y a quand même des médias qui vont un peu... Si on va regarder RT, par exemple, un média russe,
oui,
je
mais
pense.
J'allais y venir,
voilà,
mais
voilà.
RT...
Ce sera forcément un peu différent. On en revient toujours à la même question,
ils
je pense.
Ils ne viennent pas de l'ENA chez RT. Ils ne viennent pas de...
Dans les médias, ils ne viennent pas de l'ENA non plus.
Enfin, ils ne viennent pas
des écoles de journalisme. Voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est toujours cette espèce d'homogénéité, d'incapacité à sortir, on va dire...
Macron,
des schémas classiques, d'un côté provincial franco-français.
Et Macron l'a blacklisté, RT. Ouvertement, c'est connu. Ils ont dit, non mais RT, c'est Poutine, on ne veut pas entendre parler. Je dis, bon, alors RT,
ouais, ouais.
D'accord.
Mais à la limite, Macron a le droit de considérer qu'il y a des médias qui lui sont hostiles et à qui il ne veut pas parler. Ce n'est pas un problème. Eux, les médias existent, continuent à exister. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'en sais rien, il peut considérer.
Ça fait un peu l'attaque des clones.
Il peut considérer que CNews, c'est pas son truc, ou il peut considérer que
Google News, ça fait un peu l'attaque des clones,
quoi.
Quand on regarde Google News et qu'on.
Ah oui, mais Google News, c'est un filtre. C'est pas non plus à toi que je vais dire ça. Il y a un algorithme derrière très particulier qui fait que Google reprend les informations, on va dire, qui sont les plus fréquentes sur un sujet, donc c'est toujours les mêmes. Enfin, on voit toutes les mêmes. Il encourage aussi. Celles qui sont les plus vues, il les remet devant. Enfin, voilà, d'ailleurs, le fonctionnement de l'algorithme est secret. C'est-à-dire que nos vies sont, en matière d'information, et pas seulement, dirigées par des boîtes privées dont les algorithmes qui gèrent le fonctionnement sont totalement secrets et inaccessibles à nous. C'est un vrai problème. Là, on est d'accord.
Oui, oui, tout à fait.
C'est un vrai problème.
Et du coup, je voulais parler avec toi parce qu'on voit que tu as un parcours extraordinaire. Il sort de l'ordinaire. Il sort de l'ordinaire. Extraordinaire, c'est pas quelque chose de
flatteur. J'ai un parcours de journaliste.
Les tueurs en série, ils ont un parcours extraordinaire.
Mais je te remercie de la comparaison. Mais continue.
C'est-à-dire, c'est extraordinaire, ça veut dire que c'est quand même pas le quotidien de tout le monde. Ça sort de l'ordinaire parce que...
La différence, voilà. C'est que j'ai voulu à un moment donné créer des médias, diriger les médias et les faire moi-même. Voilà.
J'ai
fait ça avec Slate, j'ai fait ça avec Transition Énergie, je ferai ça avec d'autres choses qui viennent bientôt. Effectivement.
Et comment on en arrive là, c'est-à-dire bah, d'où tu viens, d'où tu as grandi, comment t'es, petit, tu étais déjà formaté journaliste parce que papa-maman l'étaient, ou c'est un peu plus...
Non, papa-maman n'étaient pas du tout journalistes. Ils ont même considéré que c'était une
Qu'est-ce
drôle de
qui
profession.
faisait?
Mon père était médecin et ma mère dirigeait un commerce,
D'accord.
une parfumerie.
Donc des gens normaux, comment on arrive dans le
Des gens
journalisme?
normaux de la France, du Nord, si tu veux, voilà, tout simplement.
Avec les pieds sur terre en plus. Les gens du Nord sont très...
Oui. En fait, il s'avère que j'étais passionné d'histoire et que, de manière un peu naïve, j'ai fait des études d'histoire, j'ai fait des études d'économie aussi, mais et il s'avère que pour moi, finalement, le journalisme, c'était l'histoire au quotidien. C'est une banalité totale, hein. Mais en fait, c'est ce truc-là qui m'a poussé. Je voulais pas faire d'enseignement. J'aimais bien écrire, et puis voilà les circonstances. Le
Mais
hasard a
petit,
fait
tu
que.
rêvais de quoi quand tu étais au primaire?
Est-ce que je rêvais de profession? Je réfléchis.
Ah, j'ai pas dit ça, j'ai dit
Non,
de
non, mais
quoi?
je rêvais de quoi? J'adorais la science-fiction. J'adorais l'heroic fantasy. Je me suis encore jamais remis d'avoir lu que ce soit 1984 ou Lord of the Rings. Tu vois, des choses comme ça.
Donc, le
Je
Seigneur
jouais
des
à
Anneaux.
Donjons et Dragons. J'avais un petit côté geek, finalement, peut-être. Voilà, tu vois, j'étais.
Donc,
Voilà. Voilà.
bon
Mais Donjons et
élève.
Dragons, c'était évidemment avec des
Oui,
dés
papier,
et du papier.
crayon.
C'est une époque que tu connaissais pas, toi. Voilà, des choses comme ça. Et alors, pourquoi, après avoir été dans des médias
Donc, bon
mainstream.
élève à l'école ou...
Pardon?
Bon élève à l'école
Oui,
ou...
bon élève. Pas, rien d'extraordinaire, mais bon élève.
Premier de la classe.
Non, plutôt deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Pas,
D'accord.
jamais premier, jamais premier. Pas mauvais élève, mais pas rien de voilà, rien de génial. En fait, il me semble, hein, la question intéressante, c'est pourquoi à un moment donné on quitte le monde, qui est une maison qui marche bien et où j'avais des belles responsabilités, peut-être même un avenir encore plus intéressant en termes de poste, on va dire, parce que j'avais ce sentiment que l'institution était en train de se scléroser. Et c'est le sentiment qu'on a. Je pense que dans notre conversation, on a ce sentiment finalement partagé qu'on est dans un système qui se sclérose, qui dysfonctionne, que, on va dire, il subit des assauts de l'extérieur de plus en plus importants en termes de médias et pas seulement. Et en fait, au lieu de s'adapter, il devient de plus en plus rigide. Et en fait, mon sentiment, c'est que le monde, donc, était en train de perdre. Je t'ai dit, j'ai vécu cette fin d'âge d'or et cette contestation. De l'autorité légitime, hein, cette contestation de l'autorité de ce type de médias. Et j'avais le sentiment que il aurait dû réagir, l'institution aurait dû s'adapter, aurait dû se moderniser, aurait dû adapter beaucoup plus facilement des nouveaux formats, enfin des choses comme ça, et qu'elle ne le faisait pas. Et donc cette frustration, je me suis dit, eh ben, je vais essayer dans une certaine mesure de le faire à l'extérieur. Et donc quand je te disais que je voulais faire Slate à l'intérieur du monde, comme je ne pouvais pas le faire à l'intérieur, eh ben, finalement j'ai été le faire à l'extérieur, en disant, ben, on va le faire nous-mêmes. Et on va essayer. C'était ça le point de départ. Et
Et comment on monte un journal en tant que business? C'est-à-dire que
ben
y
on
a
apprend.
les dépenses, ça on voit bien. C'est-à-dire qu'il faut embaucher du monde, des rédacteurs, il faut.
Faut trouver des sous.
C'était papier aussi?
Alors j'étais, enfin d'abord j'étais pas tout seul, donc c'est toujours une équipe quand tu montes un média. Et ben t'apprends si tu veux. Donc
Parce que le monde, c'est salarié.
oui, le monde, voilà,
Fiche de paye à la fin du mois,
exactement.
voilà,
Et bah, tu
ça.
travailles avec des avocats, tu travailles avec des financiers qui sont gentils et qui veulent t'aider, tu travailles avec des experts comptables, tu t'apprends les choses, tu te plantes, voilà, tu apprends à fabriquer des business plans.
Comment tu te
Voilà.
plantes? Quels sont
Et,
les...
par exemple, à Slate, donc le président c'était Colombani et moi j'étais l'opérationnel, le DG. Je me suis planté. Il y a un truc que j'ai pas bien réussi et j'espère réussir la prochaine fois. Le passage, le changement de dimension de la boîte et le passage de l'équipe de départ à l'équipe suivante. C'est-à-dire que c'est un passage clé. Il s'avère que on a eu beaucoup de chance et on a rencontré les bonnes personnes. L'équipe de départ de Slate, les journalistes, les commerciaux, les techniciens, toute l'équipe de départ, à mon sens, elle était vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, les gens aujourd'hui occupent tous des postes intéressants un peu partout. Et puis, ce qui est logique, on a commencé avec entre guillemets, des tout petits, des gens qui avaient une vingtaine d'années. Et moi, je venais du monde qui s'était sclérosé. quand je suis arrivé à Slate et qu'on a engagé des gens qui avaient une vingtaine d'années, ça faisait 15 ans que je n'avais plus vu des gens de 20 ans, si tu veux, dans l'entreprise. Donc, tu fais
un... Ça ressemble à ça, un jeune.
Ça ressemble à ça, un jeune. C'est la démonstration, si tu veux, de ce que je t'expliquais sur le fait qu'on était dans un...
Et ils étaient toujours formatés école de journalisme. Ils étaient géniaux. Tu allais en chercher.
Non, ils étaient formatés école de journalisme, mais ils étaient très différents. Et surtout, c'est là où j'ai retrouvé...
Il y avait des cocos, des libéraux...
Oui,
des...
c'est ça. On avait des néo-féministes et on avait des libéraux purs et durs. Et c'était très bien. Enfin, tu vois, c'est parfait. Et on avait des gens de 20 ans qui disaient à des gens de mon âge ou même plus âgés, parce qu'on avait mélangé des anciens du monde qui étaient partis, des retraités, des trucs, des machins, qui disaient « Mais t'as rien compris, t'es un vieux con, on va dire exactement comme ça. » Et c'était génial, je veux dire. Donc, la première équipe, je pense que... on a eu la chance, on s'est bien débrouillé. Le problème que j'ai eu, c'est ce qui est logique, c'est qu'au bout de 3, 4, 5 ans, ben ces gens ont été ailleurs et ont voulu connaître d'autres expériences, et comme ils étaient bons, ils ont été pris ailleurs. Et dans la deuxième phase, en même temps, on a grandi, c'est-à-dire qu'on a recruté plus de monde, et on a dû remplacer la première équipe, et là, je pense qu'on a fait des erreurs, et j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à retrouver l'élan, la qualité... la capacité à souder les choses, à transmettre l'information comme on le faisait quand on n'était pas nombreux. Par exemple, ça c'est des erreurs que j'ai faites. Après, il y a une autre erreur qui est une erreur techno. C'est-à-dire que, donc on lance Slate au tout début de l'année 2009. À ce moment-là, l'environnement technologique et publicitaire de l'Internet est assez différent de ce qu'il est aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont une importance limitée. La publicité programmatique n'existe pas.
Donc, ce qui veut dire que publicité programmatique, c'est les inserts. On dit là, il y a de la pub et Google se charge du reste, quoi.
Google ou des places de marché. C'est-à-dire, en gros, c'est des salles de marché. Toi qui es un homme de l'économie et de la finance, c'est des petites salles de marché, des ordinateurs, qui mettent, on veut dire, en présence de manière automatique l'inventaire, on va dire, les emplacements publicitaires disponibles sur les médias et ce que cherchent les agences et les annonceurs. Et le truc se fait, le prix se fait de manière automatique et la diffusion se fait, enfin, on va dire, presque de manière automatique. Ce qui veut dire que c'est devenu beaucoup plus compliqué de singulariser les médias et de se vendre plus cher parce que tu as une audience, entre guillemets, qualitative. Donc, ce virage-là, il se fait dans les années 2012-2013. Et on ne l'a pas bien pris. On l'a en partie loupé. On a mis des années à le prendre. Donc, on n'a pas eu les compétences parce qu'on n'en avait pas les moyens et parce qu'on n'a pas investi avec et parce qu'on n'avait pas bien compris ça. Donc, en 2012-2013, on est à peu près au niveau où on veut être, c'est-à-dire qu'on est quasiment à l'équilibre. Ce qui, pour un média de ce genre, c'est pas génial, mais c'est pas si mal que ça. Donc, on suit notre business plan jusqu'en 2012-2013. Et après, on va dire, cette petite rupture technologique fait qu'on se plante. Ça, c'est aussi une erreur que j'ai commise. C'est-à-dire que j'ai pas compris qu'il fallait qu'on ait dans la boîte, vite, des gens qui soient compétents sur les réseaux sociaux et des gens qui soient capables de gérer de manière efficace cette publicité programmatique. Voilà. Et on a mis 2-3 ans à faire ça, c'était presque trop tard.
Et comment ça se finance un journal comme Slate ou Le Monde? Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a un modèle business du journal?
Il n'y en a plus. Il y a un modèle économique qui existait, qui a explosé. C'est tout le problème.
C'était de vendre du papier ou c'était de se faire financer?
Slate n'a jamais vendu de papier. Non, le modèle économique des médias classiques, c'était avant tout un modèle, on va dire, publicitaire. Donc une grande partie des revenus, je parle du Monde là, venait de la publicité. C'était beaucoup plus facile quand... Allez, je vais faire de la caricature. Hein, là. C'est vraiment simpliste ce que je veux dire. Mais quand il y avait 15 médias nationaux qui se partageaient le marché publicitaire national, il y avait 3 chaînes de télévision, 4 radios, 5 grands quotidiens et 3 magazines, tu as finalement un accès à une part de gâteau qui est large. Quand tu as 300 médias ou 500 médias qui se partagent le même, on va dire, temps de cerveau des lecteurs ou de l'audience et le même marché publicitaire, que par ailleurs, tu rajoutes à ça le fait que tu as des nouveaux entrants qui accaparent 75% du marché, qui s'appellent Google, Facebook, et ben le modèle est détruit. Les médias classiques n'ont plus de modèle économique. Alors Slate, c'était un peu différent, c'était un média purement numérique. Comme en plus on était gratuit, on va dire avant tout, on vivait de la publicité.
Et c'est quoi le rôle alors des milliardaires là-dedans pour financer?
Alors, on n'était pas financé à l'origine par des milliardaires. Slate, c'était des fonds d'investissement. Il s'avère que, après, Slate a été repris par la famille Rothschild, ce dont je me félicite, ça assure la pérennité du média. Et donc, après, on est rentré dans le schéma milliardaire, on va dire. Et quand la famille Rothschild a pris le contrôle, je suis parti d'ailleurs.
un fonds d'investissement qui investit dans un journal, parce que par définition, un fonds d'investissement, il veut une rentabilité.
Oui,
C'est
mais
rentable les journaux? Il y a une
on a
rentabilité?
commencé avec, comme on dit en français, friends and family, hein, le projet d'investissement, donc on a tous mis un peu d'argent, enfin voilà, le truc classique. Et après, on a trouvé un fonds d'investissement, effectivement, il y en avait quelques-uns, qui croyaient à notre modèle, et donc qui nous a accompagnés, parce que, comme on était un modèle, on va rentrer dans l'économie, comme on était un modèle un peu à coût fixe, si on avait, on va dire, si les revenus, la progression des revenus avait suivi ce qu'elle était, elle a été perturbée à partir du changement technologique en 2012-2013, on aurait pu être relativement rentable. Oui, c'était pas mal. Et puis, si tu veux, tu crées de la valeur, en tout cas on créait de la valeur, qui était qu'on avait construit une audience qui n'était pas négligeable, qui l'est toujours aujourd'hui. Donc on était à 2012, en 2012 ou 2013, on devait être à 3 millions de visiteurs uniques par mois. Ça a une valeur. Et si tu rajoutes aussi le fait que cette audience-là, c'est plutôt, on va de nouveau parler jargon, CSP+, c'est-à-dire des catégories socio-professionnelles supérieures, ça a une valeur aussi. Donc
Et
on
un
avait
fonds
quand même créé un peu de
d'investissement,
valeur.
et le fonds
Pardon?
d'investissement, lui, en investissant dans Slate, il pensait retrouver une rentabilité là-dessus.
Oui.
À long
C'est à un
terme,
moment
quoi.
donné que
Ouais.
Slate serait racheté par un média important,
Ah
par un
oui,
groupe de
d'accord.
com, par un truc, par un
Donc
machin.
il jouait la plus-value sur
Il
la
jouait la
revente, quoi.
plus-value sur la
D'accord.
valeur créée, pas forcément sur la rentabilité, parce que c'est quand même
Intrinsèque, quoi.
compliqué
Ouais.
de gagner beaucoup d'argent. Mais les médias numériques, ils gagnent très bien leur vie, hein.
Et
Aux
alors,
États-Unis notamment. En France, c'est un peu plus compliqué.
Et du coup, on en était à peu près collège-lycée où t'évoluais donc pas. C'était quoi? T'habitais dans les quartiers bourgeois ou plutôt populaires? Ou c'était quoi
Non, non, j'étais
ton
dans un quartier,
cadre?
mon père était médecin, donc j'étais dans un quartier bourgeois à Lille, oui.
Et comment on passe de. Non, oui, donc t'as fait le lycée général et après
J'ai fait le
comment.
lycée général, après j'étais à la fac, donc j'ai fait une licence d'histoire et une licence d'économie, et je suis allé dans une école de journalisme à Paris, qui est une bonne école, qui s'appelle l'IPJ, et grâce à cette école, je ne suis pas sûr d'avoir appris le journalisme à l'école, mais en revanche, j'ai pris contact, parce que je ne connaissais personne, avec des journalistes. Je ne connaissais rien dans ce milieu. Et puis il s'avère que grâce à ça, j'ai trouvé mon premier boulot à la sortie de l'école. À l'époque, c'était plus facile. Donc on était en 1986 à la Tribune. Il s'avère que la Tribune venait d'être achetée par un patron bizarre. Je ne vais pas donner de nom parce que je ne veux pas qu'on ait des problèmes un jour. Qui gérait le truc un peu bizarre. Et donc toute la rédaction avait foutu le camp. Donc il avait besoin de trouver des petits jeunes à payer pas très cher, si tu veux, pour faire fonctionner sa boutique.
Idéal pour démarrer.
Et j'ai commencé comme ça. Voilà, exactement. Après, je suis allé au Nouvel Économiste avec Tardieu. Et puis voilà.
Et c'était un hasard le journalisme ou c'était vraiment une conviction à l'époque si en gros tu as eu ton bac avec des bonnes notes, j'imagine, mais après la
Ouais,
fac, tout
non,
le
non,
monde y rentre à la fac.
c'était vraiment passionné d'histoire. J'aimais beaucoup l'économie aussi. Et on va dire, je me voyais pas enseignant. Je me voyais, ouais, c'est devenu enfin, une espèce d'évidence comme ça. C'est pas une vocation. C'est-à-dire qu'à 10 ans, je ne me suis pas dit je vais être PPDA à la place de PPDA, si tu veux, ou Christine Ockrent à la
Alors,
place
pour
de
ceux qui ne
Christine
connaissent
Ockrent.
pas PPDA, c'est Patrick Poivre
Poivre
d'Arvor et
d'Arvor,
c'était.
le présentateur mythique du journal de
Voilà.
20h de la grand-messe, ça n'existe plus, toi, c'est la
Ouais.
démonstration de
De
l'effondrement des
puissance.
médias
Ouais.
classiques, donc la grand-messe d'information tous les soirs à 20h sur TF1. Et donc, je n'ai pas eu à 10 ans, voilà, je m'intéressais à la politique, je m'intéressais à des choses comme ça. Je pense qu'à 10 ans, j'avais acheté un grand tableau de Napoléon que j'avais mis dans ma chambre, tu vois, c'était ça mes trucs. Donc j'adorais Napoléon à 10 ans, les choses ont changé, mais tu vois, c'était des trucs comme ça de gosse.
Mais pourquoi Napoléon? Qu'est-ce qui t'avait choqué à 10 ans chez
Qu'est-ce qui
Napoléon?
m'avait. Non, pas choqué, plus.
Marqué, oui.
Marqué. Parce que, si tu veux, il avait fait. J'étais patriote à l'époque, je le suis encore un peu, mais je l'étais sans doute plus à l'époque. Il avait fait de la France la grande puissance européenne, voire mondiale, si tu veux. Donc
D'accord.
c'était voilà, c'était ce côté-là. Il gagnait les batailles, tu
Ah
vois. Voilà. C'était pas une vocation, mais c'est devenu une évidence, si tu veux, parce que ça correspondait à ce qui me plaisait, quoi. Alors, j'ai pas vite déchanté, mais j'ai vite compris qu'entre le rêve et la réalité, il y a une différence. Tu vois, les premiers stages de journaliste que j'ai fait, donc quand j'étais à l'école de journalisme, c'était dans les locales
Les locaux.
de ce qu'on appelait les locales de quotidiens régionaux.
Ah oui,
C'est-à-dire
d'accord, ok.
les petites agences des quotidiens régionaux. Et donc, mon premier stage, je m'en souviens encore, évidemment, je l'ai fait à la locale de Béthune de la Voix du Nord. Et donc, je ne sais pas si tu te souviens, je pense que tu étais trop jeune, le maire de Béthune, à ce moment-là, s'appelait Monsieur Mélic. Et Monsieur Mélic s'est retrouvé embarqué dans un scandale où on mêlait Tapie, parce qu'il avait cherché à protéger Bernard Tapie, quand il avait truandé un match. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Et toujours est-il que quand tu es à la locale d'un journal régional, pendant tout l'été, pendant 2 mois ou 2 mois et demi, tu serres la main du maire tous les jours. Voilà, je me souviens très bien que je serrais la main du maire tous les jours.
Et donc, en fait, le journalisme, ça t'a pris... Parce qu'à la fac, tu me dis que tu as commencé par faire histoire.
De l'histoire et de l'économie.
De l'histoire. Donc, ce n'était pas le journalisme en priorité qui
non,
t'intéressait.
Non, non, non.
Donc, tu es allé... T'es...
C'est devenu une évidence ensuite parce que, en fait, pour continuer à faire ou à m'intéresser à ce qui me plaisait, il n'y avait pas... Enfin, la façon dont je sentais les choses. Et j'aimais bien écrire.
Donc, tu ne savais pas trop... Tu tâtonnais, quoi, à l'époque.
J'étais un garçon. C'est-à-dire que la... Alors, on ne peut pas généraliser, mais... La maturité des garçons, en général, vient un peu plus tard que celle des filles.
C'est ce qu'il se dit.
Il paraît. Il paraît même qu'on rattrape jamais notre retard, mais on va arrêter là.
Et du coup, ouais, alors à la fac, un peu de... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui sont au lycée aujourd'hui, et qui se posent la question de leur orientation. Et ils se disent, mais moi, je ne sais pas si je veux devenir journaliste, cosmonaute ou balayeur. Ou... Et comment, c'était quoi ce cheminement en fait? Parce qu'en fac, histoire éco, ça veut dire que tu avais quoi, 10 heures de cours par semaine? Je charrie.
Oui, voilà, c'est ça, j'avais, non mais voilà, il fallait bachoter avant les... J'avais une belle vie. Non, non, j'avais une vie...
C'est une vie d'étudiante classique.
Une vie d'étudiant classique, pré-Covid.
Oui.
Voilà, pré-SIDA.
Ouais.
Ça joue aussi beaucoup.
Ouais.
Donc, c'était une vie d'étudiant, pas désagréable, si tu veux.
Et pas en mal
plus,
la fête.
Avec des parents qui étaient relativement généreux et avaient un peu d'argent. Donc, j'avais une vie magnifique. Hein. C'était une vie d'étudiant géniale.
Beaucoup de fêtes, en fait.
Et voilà, une vie d'étudiant sympa.
Et du coup, c'est par et l'école de journalisme, tu y viens défaut ou...
Non, pas par défaut. Je me dis, je veux faire ça.
Parce que histoire et éco, c'est 5 ans normalement à la fac. C'est jusque avant.
Oui,
y avait
oui,
une
moi
bug,
j'ai fait
après,
une licence et une maîtrise, donc 3 et 4. Mais effectivement, donc je viens à Paris, je passe le concours et je commence en 84, l'école de journalisme, c'est 2 ans. Et en 86, je sors et je vais à la tribune. Si tu veux, pour rentrer dans le journalisme, il n'y a pas d'annonce. Le journalisme, ça se faisait à l'époque, et je pense que ça se fait encore en grande partie aujourd'hui, par cooptation. Ce qui d'ailleurs est un problème. Ça, c'est autre chose. Donc pour devenir journaliste et rentrer dans une rédaction, eh ben, faut qu'il y ait des journalistes qui te disent « on cherche quelqu'un ». Sinon, tu ne peux pas. Et donc, je ne connaissais personne dans le milieu. J'avais aucune connexion. Donc, l'école de journalisme, bon, alors d'abord, je pensais qu'elle allait m'apprendre des choses. Elle m'a appris un certain nombre de choses, il ne faut pas exagérer. Mais l'école de journalisme, c'est une manière, et à Paris en plus, pour un type qui vient de province, c'était la façon de rentrer dans le truc, si tu veux. Sinon, je ne pouvais pas. Donc, il fallait que je trouve...
C'était la boîte pour se connecter à ce monde-là.
Exactement, il fallait d'une façon ou d'une autre se connecter à ce monde-là.
On vérifie que la pensée est bonne et après, on connecte.
Non, ça n'avait rien à voir. Non, ce n'était pas une question de pensée. On vérifie que les mecs savent à peu près écrire, comprennent à peu près ce qu'on leur dit, sont capables de répondre à peu près à une question, d'en poser, d'écrire des choses. Voilà, on leur apprend des techniques. Si tu veux, le journalisme de presse écrite, de mon point de vue, c'est un artisanat. C'est-à-dire que c'est un petit savoir-faire que tu améliores, que tu polis, que tu travailles. Plus tu écris, mieux tu écris. Et c'est, voilà, c'est un métier que tu apprends. Voilà. Et donc, cet artisanat, ben, à un moment donné, il faut qu'il y ait un mec qui te foute sur l'établi. Et l'école de journalisme, c'est ça.
Donc, quand on a 22 ans et qu'on a envie de faire du journalisme, l'école de journalisme, aujourd'hui, c'est toujours...
Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu incontournable. C'est-à-dire que la diversité d'origine des journalistes n'est plus du tout ce qu'elle était. C'est-à-dire que maintenant, là, à l'époque, c'était moins fréquent. Mais l'école dont je t'ai parlé, les 4-5 autres écoles, on va dire, sont les écoles qui forment la plupart des journalistes en France aujourd'hui.
Ce qui, à mon sens, c'est... 90% ou 60%?
Pardon. Je ne sais pas, je ne peux pas te donner, le chiffre précis, mais la grande majorité. Je trouve que c'est un peu dommage, mais je suis un peu mal placé pour en parler, puisque je viens de cette filière-là, si tu veux. Donc c'est une espèce de contradiction.
Et une fois du coup que tu as le pied à l'étrier à la tribune, bah après c'est ce réseau qui se fait.
Exactement.
Après c'est au talent ou c'est au réseau que ça marche pour monter?
C'est très compliqué. Moi je pense qu'il y a un mélange des deux. Ouais. C'est-à-dire que c'est...
Tous tes collègues étaient talentueux? Ceux qui montaient?
Non. Mais d'ailleurs, il y en a qui ont plus ou moins qui sont bien débrouillés, d'autres qui sont très très bien débrouillés, d'autres qui sont pas bien débrouillés. Alors, il y a la faute à pas de chance, il y a la faute à... C'est très compliqué de dire. Je pense qu'il y a un mélange des deux. C'est-à-dire que si tu as du talent, mais tu n'as pas le réseau, tu vas nulle part. Si tu as que le réseau et tu n'as pas de talent, ça va finir par se voir, si tu veux. Sachant que plus que le talent, moi je trouve que le talent c'est autre chose, c'est du travail, quoi. En gros, si tu travailles beaucoup, et ben, à un moment donné tu y arrives. Si tu travailles moins, et ben, c'est plus compliqué. Si tu veux, c'est la même chose sur Internet. Tu peux avoir les meilleurs contenus du monde. Si tu les diffuses mal, personne ne les verra et ça n'aura aucun impact. Tu peux avoir des contenus malheureusement médiocres. Si tu as une très grosse capacité de diffusion et tu sais bien diffuser, et ben, ça aura un impact. Il y a un peu de ça dans le journalisme.
Et du coup, quand est-ce que tu t'es mis à bosser pour de vrai, étant jeune? Parce que là, à la fac, on n'y était pas trop, là.
À partir du moment où je suis rentré dans un média, j'ai bossé comme un... Alors, c'est immodeste, mais j'ai bossé comme un fou. Ouais.
Donc à partir de la tribune, quoi, c'est le pied à l'étrier, quoi.
Oui,
vraiment,
exactement, j'ai plus jamais lâché. Et si tu veux, quand j'étais au Monde, j'étais au journal, notamment quand j'avais des responsabilités, tous les matins vers 6h, 6h30, et on travaillait 6 jours par semaine, et quand on partait à 18h le soir, c'était bien. Voilà. Donc, c'est tant mieux, t'es porté par le truc, si tu veux, porté par la machine. Et Slate, il s'avère que, c'est un peu personnel, bon tant pis, pendant 2 ans, quand je suis revenu aux États-Unis, ma famille, en fait, ma femme et j'ai un fils, sont restés aux États-Unis pour tout un tas de raisons. Elle avait du travail, enfin, lui, ses études, c'était mieux, etc. Et donc, pendant 2 ans, quand j'ai lancé Slate, j'ai fait que Slate. Les mecs à la boîte m'appelaient Monsieur No Life. Parce que je faisais que ça, parce qu'ils devaient leur casser les pieds, si tu veux, Monsieur No Life, parce qu'au bout d'un moment, hein, voilà. Mais pour lancer une boîte, tu sais bien, il faut bosser comme un chien, il faut faire que ça. Il faut penser qu'à ça, il faut être
obsédé. En gros, on se mettra d'accord pour dire que c'est 12 heures par jour, au moins 6 jours sur 7. Ouais, histoire de lancer le truc, voilà, c'est la base.
Et le problème, c'est quand c'est un média numérique, en fait, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est le jour sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que tu peux toujours faire quelque chose.
Et aujourd'hui, alors, dans le projet actuel, c'est Transition et Énergie.
Donc ça a été lancé il y a à peu près 2 ans. Sur un créneau un peu plus étroit et un peu différent. Donc ça s'appelle Transition et Énergie. Donc c'est un média numérique. 5 jours sur 7, on publie des choses. Et puis, c'est une revue trimestrielle. Et bientôt, une newsletter professionnelle en anglais, B2B. Business to business, donc uniquement pour les professionnels. L'idée derrière Transition Énergie... Alors, Transition Énergie, je ne suis pas moteur. Slate, je suis moteur. Transition Énergie, je rencontre des gens qui veulent faire ça. Et je leur dis, OK, ça me paraît intéressant.
Alors, quelle est ta place là-dedans?
Ma place, c'est je m'occupe uniquement de l'éditorial. Donc, je gère tout le média... Pas l'aspect commercial, pas l'aspect administratif et autres. Donc, ce n'est pas ma boîte. En revanche, je suis responsable de tout ce qui est produit, de tout ce qui est fabriqué, de A à Z. Voilà. Et d'ailleurs, totalement responsable.
Quel sujet, quelles articles,
quelles priorités, quelle une et quel dossier développer dans les magazines, qu'est-ce qu'on publie tous les jours sur Internet, ce genre de choses-là. L'idée derrière Transition Énergie, c'est tout simple. C'est une question essentielle, la transition énergétique et la transition écologique. C'est l'une des 2-3 questions essentielles du moment. Et on ne peut pas seulement la laisser, je veux dire, aux politiques, aux militants et aux intérêts. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de l'aborder, modestement, mais d'apporter notre pierre à l'édifice, l'aborder de manière raisonnable, rationnelle, réaliste. On n'a pas d'a priori, mais on ne peut pas se permettre de rater la transition énergétique.
Bon, la transition énergétique, clairement, c'est comment on se passe de
comment on se passe des énergies fossiles.
Voilà, c'est ça.
Comment on remplace les énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre, qui sont non renouvelables par définition, et comment, en quelques dizaines d'années, on arrive à se passer de ces énergies fossiles. Alors, soit on aborde la question sous un aspect moral, idéologique ou collapsologique. Si on peut dire ça comme ça, en disant on va tous mourir si demain matin on ne cultive pas notre jardin et on ne reste pas chez soi.
Tous dans le Larzac.
Voilà, tous dans le Larzac. Ou si on ne ferme pas les centrales nucléaires, on ne met pas que des éoliennes, on n'achète pas tous des voitures électriques et des panneaux solaires et c'est fini. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on veut expliquer que si on apporte des solutions simplistes et non réalistes, on va se planter et on veut pas, et on ne peut pas se permettre de se planter. Alors, donc on essaye, en gros, de diffuser une information un public relativement large, en tout cas de gens qui se sentent concernés ou impliqués par ces questions-là.
Et comment t'expliques, c'est marrant parce que quand tu me disais ça, c'est vrai que sur le nucléaire, c'est une question en fait qui, c'est un peu comme l'euro. Il y a un dogmatisme qui s'installe.
C'est une question plus sensible que l'euro.
Oui,
Là,
bien
tu as des
sûr.
vraies chapelles.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des chapelles qui s'érigent là-dessus en disant le nucléaire, c'est pas bien. Ah d'accord, tu sais de quoi tu parles? C'est quoi le nucléaire? Ça marche comment? Tu sais que c'est une bouilloire nucléaire, une bouilloire. Ben, comment est-ce qu'on peut, est-ce que c'est un nouveau trait de société en disant que les avis se polarisent un peu partout et qu'il y a des sujets et pour être bien, il faut être de cet avis-là et...
Alors sur le nucléaire, ça fait longtemps que c'est polarisé. Donc c'est pas le, c'est pas, c'est, mais tu as raison. C'est le bon exemple.
Tous
C'est-à-dire
les candidats à la
il n'existe
présidentielle,
pas de.
ils sont contre le nucléaire et ceux qui sont pour, ils le disent pas, quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà,
En fait, il y en a qui sont
ils
pour, mais
disent
ils ne le disent pas. En fait,
je...
il n'y a pas de source d'énergie qui n'ait pas d'inconvénient. Ça n'existe pas. Donc toutes les sources d'énergie, ou les vecteurs d'énergie, parce que l'hydrogène, on en parlait, c'est un vecteur, ce n'est pas une source, puisqu'il faut le fabriquer. Mais enfin bon. Donc toutes les sources d'énergie ont des avantages et des inconvénients. Le nucléaire a des avantages et des inconvénients. À un moment donné, il faut faire des choix, il faut faire des balances. Donc, par exemple, on prend l'exemple du nucléaire. Le nucléaire a un avantage, enfin deux avantages. C'est que c'est une énergie extrêmement concentrée. L'évolution énergétique depuis 2 siècles, 2 siècles et demi, c'est que on en produit de manière de plus en plus concentrée. Donc, sur un endroit relativement restreint, on produit beaucoup d'énergie. Ça a un autre avantage qui est que c'est une énergie décarbonée, donc pas beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Ça a un inconvénient, enfin, lourd, qui est que on ne sait pas aujourd'hui démanteler des centrales qui ont fonctionné. C'est une première chose. On continue aujourd'hui à démanteler des centrales en France qu'on a arrêtées il y a 15 ans, 20 ans, et on ne sait pas quand on terminera. Et par ailleurs, on a un autre problème aussi, qui est la gestion de la sécurité des centrales, même si là, il y a beaucoup de mythes, et la réalité est un peu. Voilà.
Ouais, c'est
Il faut
compliqué
faire
parce que maintenant,
attention.
on
Et
saurait
puis les
concevoir.
déchets, une partie des déchets très radioactifs, qu'on a beaucoup de mal à traiter. Donc, il y a une balance, si tu veux, à faire. Et c'est vrai pour les éoliennes. Les éoliennes présentent des avantages, mais des inconvénients parce qu'elles sont intermittentes. Donc c'est renouvelable, ça émet pas beaucoup de gaz à effet de serre. Mais c'est intermittent, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vent, bah, tu n'as pas d'énergie. Et donc il faut que tu arrêtes ton. Si tu débranches des éoliennes, tu arrêtes le métro et tu arrêtes le fonctionnement des hôpitaux. Ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et par ailleurs, si tu as une éolienne dans ton jardin, si tu veux, tu es moyennement ravi en règle générale, parce que ça réduit ta qualité de vie. Les panneaux solaires, ça présente des avantages et des inconvénients. Et tu peux aligner ça. Donc, à un moment donné, il y a des stratégies à faire, des choix à faire, des technologies à pousser. On essaye d'expliquer ça.
Et on peut aborder ça de façon rationnelle.
Il faut aborder ça comme une question d'ingénierie, je dirais presque. Comment on règle un problème rationnellement? C'est-à-dire que si tu introduis trop de morale dans ça, et c'est le problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on explique aux gens que si on a un problème de transition énergétique, c'est parce qu'ils ne se comportent pas bien, ils ne consomment pas bien. Effectivement, si tu économises de l'énergie, tu peux apporter ta pierre à l'édifice, mais tu ne régleras pas le problème. Ce n'est pas à l'échelle. Des problèmes. On consomme dans le monde 10 milliards de tonnes de carburants fossiles par an. C'est 80% des sources d'énergie du monde. Tu les remplaces pas, si tu veux, en cultivant tes pommes de terre ou en arrêtant de manger de la viande. C'est pas à l'échelle du problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est très bien si tu le fais. Ou parce que tu achètes une voiture électrique, tu ne règles pas le problème. Donc voilà, c'est d'une autre dimension. On veut simplement expliquer ça. Ça va prendre des décennies, toute la transition énergétique ont pris des décennies. Il y a des stratégies qu'il faut mener, qu'il faut moduler en fonction des avancées technologiques. Et il faut le faire, il faudrait réussir à le faire de manière consensuelle. Et par ailleurs, on a un autre sentiment aussi, mais ça se discute, qui est que si on considère que pour y arriver, la logique, c'est forcément la décroissance, on aura un problème d'acceptabilité sociale et politique et on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire accepter aux gens qui vont s'appauvrir. Au nom d'une question et d'un problème qu'ils ont du mal souvent à percevoir.
Sachant que l'appauvrissement en France est déjà bien engagé depuis 20 ans.
Pour d'autres raisons.
Pour d'autres
Mais on
raisons,
est
mais
bien
je veux dire,
d'accord.
voilà.
Pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, qui est que on a en fait un État qui vit au détriment de la nation, on peut dire ça comme ça, et qui a participé à son appauvrissement. Mais bon.
Ouais, comment? Parce que dans les années 80, moi, alors j'étais petit, hein, mais l'énergie, tout le monde s'en fichait.
Ben oui.
Comment on a moralisé l'énergie, qui est un sujet chiant parmi les sujets chiants de base, c'est pas un sujet excitant. Comment est-ce qu'on arrive à dogmatiser, à moraliser des sujets?
Alors,
C'est quoi ce délire?
On va dire c'est la logique du mouvement écologique, qui est une vieille histoire, hein, qui est en fait à l'origine, on va dire 19e siècle ou début du 20e siècle, c'est plutôt de droite, et c'est plutôt un mouvement conservateur et anti-moderniste.
Les écologistes?
Oui. L'écologie vient de là, c'est-à-dire la préservation de l'environnement naturel détruit par la modernité, la société industrielle, etc.
C'est quoi, ça vient de là. Pêche, nature et tradition, c'est ça, non?
Ouais, ouais. En tout cas, c'est voilà, tu retrouves ça au Royaume-Uni, tu te retrouves ça en Allemagne, etc. Donc un mouvement conservateur anti-modernité. On veut conserver le mode de vie traditionnel, on veut conserver la vie à la campagne, on veut voilà. Tout est détruit par la pollution, par l'industrie, la société. Enfin voilà. Et ça bascule après à gauche dans une logique, même à l'extrême gauche au début en tout cas, dans une logique anticapitaliste. C'est-à-dire que tu as le Club de Rome, par exemple, dans les années 70, qui dit, qui est une association d'intellectuels, qui dit le capitalisme épuise les ressources de la planète.
Le rapport Denis-Meadows, le Club de Rome.
Voilà.
Qu'on a signé.
Dans quelques décennies, on va tous mourir. Parce qu'on n'aura plus d'énergie, on ne pourra plus se nourrir, etc. Après, tu as aussi le mouvement anti-nucléaire, à l'origine de l'écologie, mais qui est plutôt, d'ailleurs, qui naît plutôt en Allemagne, et qui est plus contre l'arme, à la limite, que contre l'énergie au début. Enfin, la peur de l'arme nucléaire. Donc, pour des raisons évidentes. S'il y avait eu une guerre nucléaire entre l'URSS et l'Occident, le champ de bataille, ça aurait été l'Allemagne. Et donc, si tu veux, les Allemands ne voulaient qu'une seule chose, qui est le désarmement, pas de nucléaire, et avec une assimilation, si tu veux, assez facile. D'ailleurs, tout le problème de l'énergie nucléaire, c'est qu'elle s'appelle nucléaire. Et donc, entre les bombes et l'énergie, voilà. Et donc, les Verts allemands, qui ont un vrai poids, il y a une vraie peur en Allemagne du nucléaire, on va dire, rejette les armes nucléaires, évidemment, et rejette l'énergie nucléaire. Le mouvement écologiste vient de ça. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, ils ont beaucoup de mal, le mouvement économiste en général, à changer de priorité et à considérer que finalement, l'énergie nucléaire peut être une solution de transition, parce que la priorité aujourd'hui, c'est de décarboner et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ils n'y arrivent pas. Parce que c'est leur combat initial, leur raison d'être. Et donc, ils ont du mal à effacer leur raison d'être et à passer, parce que le combat, on va dire, contre les émissions de gaz à effet de serre et climatique vient plus tard. Et le début de l'écologie en France, c'est aussi 70, la première élection présidentielle où il y a un candidat écologiste, René Dumont, qui fait 1%.
Alors, pour finir, est-ce que les médias, la décentralisation, c'est quelque chose qu'il faut pousser, embrasser et quelque part s'informer de plus en plus de façon... décentralisé, ou alors est-ce qu'il faut quand même s'accrocher aux fameux médias mainstream parce qu'on peut encore sauver les meubles?
Je sais pas, c'est compliqué comme question. Ce que je pense, c'est que les médias mainstream dans le schéma où ils sont aujourd'hui, ils sont condamnés. Mais d'un autre côté, ils ont un poids que la décentralisation ne permet pas. C'est-à-dire que si les médias, c'est uniquement des gens sur Internet, qui construisent des formats sans être sur place, sans voir, sans y aller, ou en y allant par des intermédiaires, c'est toujours compliqué. Voilà. Donc je pense qu'il faut des organisations qui permettent, on va dire, d'aller à la source des choses, de voir les choses, tout en gardant la distance. On va dire, c'est toute la complexité. C'est-à-dire le journalisme qui fait uniquement d'émotions et de sensiblerie, moi ça me gêne. Ce n'est pas sa vocation. La vocation du journaliste, c'est d'essayer de faire comprendre les choses, d'expliquer, de les mettre en perspective. Pas uniquement, alors ça joue, mais pas uniquement de faire pleurer dans les chaumières, parce que c'est une partie du cerveau qui est utile, mais il faut aussi utiliser l'autre partie de notre cerveau. Après, sur l'avenir des médias, moi, ce que je crois, c'est que leur vocation essentielle, c'est de hiérarchiser les choses. C'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a un impact sur votre vie, et qu'est-ce qui est, on va dire, de l'écume. Et le problème, c'est que les médias aujourd'hui, surtout d'ailleurs audiovisuels et autres, vivent de l'écume et ne font que de l'écume.
Un conseil pour un jeune qui voudrait devenir journaliste et aujourd'hui?
Eh bien, il faut qu'il fasse ce que tu fais. C'est-à-dire que... Non, mais ce n'est pas de la flagornerie, mais si tu veux, de la techno, de la vidéo, des podcasts, apprendre à diffuser sur Internet, apprendre à gérer les réseaux, C'est une banalité, hein, mais c'est que ça. De toute façon, l'avenir des médias est numérique, il n'est que numérique. Voilà, point.
Eric Lézard, merci, à bientôt.
À bientôt, c'était un plaisir.
Moi aussi.